Édouard Rode, La femme à bouscater. J'étais installée depuis 8 jours dans une des auberges du petit village valaisan de Fin-Haut, situé à 1200 mètres d'altitude, dans une des vallées latérales de la vallée du Rhône, qui va de Vernaillaz à Chamonix. J'en aimais les aspects mouvementés, des paysages à larges échancrures, des abîmes tragiques, des pentes vertes où s'épanouissent les belles fleurs alpestres. J'en aimais aussi les habitants, des gens graves, aux allures lentes et lourdes, peu communicatifs, peu débrouillards, mal outillés pour la lutte pour la vie, énergiques, honnêtes et doux. Je les observais curieusement et ne voyais rien d'eux. Ils ne se manifestent pas. Le matin, on entend le chalumeau du chevrier qui rassemble ses bêtes et, si l'on sort, on voit des hommes et des femmes filer par les chemins, la faux ou le râteau sur l'épaule. Tout le jour, le village est silencieux. À la tombée de la nuit, on rencontre des femmes, pliant sous un énorme fardeau de foin, de litière ou de blé, qu'elles portent sur la tête. Le soir, les hommes stationnent en groupe sur la place, fumant des pipes en échangeant de rares paroles. Quelquefois, je causais avec le guide Prunier, un peu plus loquace que les autres. Il me racontait ses ascensions. C'est tout ce que j'en pouvais tirer. Quant à l'hôte du Trian, mon auberge, le père Antoine Pélomel, il fournissait volontiers les renseignements qu'on lui demandait sur la contrée. Rien de plus. Seul, le curé, bon vieillard intelligent, qui depuis 30 ans vivait dans sa cure à Volévert, à 2 pas de son église à clocher pointu, parlait parfois avec une pointe de malice du genre de vie de ses paroissiens et du développement que prenait Fin-Haut grâce aux étrangers. Un matin, je remarquai une animation extraordinaire dans le village. Personne n'était au champ. Les hommes étaient massés devant l'église, les femmes babillaient autour du lavoir. « Qu'y a-t-il donc ? » demandai-je à Prunier qui passait. Il eut un rire futé et mystérieux. « Ce qu'il y a ? Tiens, c'est Bouscater qui part pour l'Amérique !» Et il me planta là avec un air de triomphe qui voulait dire « Tu ne sais pas ce que ça signifie. Tant mieux. Cherche !» Un instant après, je vis passer l'âne de la poste, traînant sa charrette chargée de mal que les femmes se montraient du doigt, et suivi à quelque distance par un couple assez étrange qui piqua vivement ma curiosité. L'homme pouvait avoir une 30aine d'années. C'était un petit montagnard, trapu, courtaud, bruni par le soleil, qui semblait endimanché dans un complet gris et coiffé d'un chapeau de paille à bord droit, à ruban noir. La femme, du même âge ou à peu près, grande, svelte, assez belle, très blanche, avec de grands yeux noirs dédaigneux ou indifférents, était d'une autre race. Dans son manteau de voyage, très simple, sous son chapeau garni de dentelles, un petit sac en cuir de Russie à la main, elle avait l'air d'une dame allant aux emplettes. « Qui est cette personne ? » demandai-je au père Pélomel qui sortait de son hôtel tout essoufflé. Il hésita longtemps avant de me répondre. « C'est la femme à bouscater, parbleu, la demoiselle. » Tout le village, cependant, se pressait sur leur chemin. Bouscater, avec un sourire bonhomme et attendri, serrait les mains qu'on lui tendait. « Adieu, Pierre. Adieu, Jean. Adieu, Jacques. On se reverra tout de même une fois. » Quant à Madame Bouscater, elle ne regardait personne et marchait sans paraître entendre les « Adieu, Madame !» les « Bon voyage, Madame !» les « Au plaisir de vous revoir, madame, » qui l'accompagnait avec des révérences ironiquement cérémonieuses. Derrière eux, quand ils eurent passé, le village resta bourdonnant comme une ruche en révolution. Machinalement, je les suivis à quelque distance. Au moment où la route commence à se perdre en descendant sous les sapins, Bouscaté se retourna, s'essuyant les yeux. Madame Bouscaté ne s'arrêta pas. Et je les vis disparaître derrière un contour, lui de son pas lourd de montagnard, elle, alerte et presque aérienne, dans l'envolement de son joli manteau de voyage, dont les pans entr'ouverts flottaient. Le soir, j'interrogeai Prunier, puis le père Pélomel, puis le curé, sur le compte des deux émigrants. Et voilà leur histoire, telle que j'ai pu la reconstituer à l'aide de ces témoignages. Chapitre 1. À 25 ans, Jean Bouscaté était un brave garçon, un peu sauvage, qui jouissait à fin haut d'une situation fort enviable. Il avait, comme on dit, du foin dans ses bottes. Des champs de blé et de pommes de terre, conquis pouce à pouce sur les rocailles, plusieurs vaches, un pâturage, le chalet où il demeurait avec sa tante Jacqueline qui faisait son ménage. Son père, qui était ambitieux, avait voulu le mettre aux études, mais la lourde intelligence de Jean ne se prêtait ni aux subtilités de la grammaire, ni au raffinement de l'orthographe. Et il se montra si peu brillant à l'école de Martigny qu'on dut le ramener au village. Le père Bouscaté se désolait, mettait l'échec de son fils sur le compte de l'hostilité des gens d'en bas pour ceux d'en haut, et répétait « À quoi bon être riche si le gamin ne peut pas devenir autre chose qu'un paysan comme moi ?» À quoi le curé répondait « Consolez-vous, père Bouscaté, consolez-vous !» Le mieux pour les montagnards, voyez-vous, c'est encore de rester à la montagne. Jean resta donc montagnard. Mais, par un curieux phénomène, tandis qu'à Martigny il pleurait comme une fontaine dans l'attente du dimanche où il reverrait son chalet, et s'ennuyait comme les pavés de la grand-rue, il se prit à éprouver, en avançant en âge, cette nostalgie de la ville, et du mieux que son père avait eu pour lui. Ses souvenirs d'études étaient devenus très vagues. Il avait oublié les taloches, le bonnet d'âne, les heures de retenue enfermées dans la classe, l'ennui de l'arithmétique et de la géographie, et se rappelait seulement de belles maisons, des places spacieuses, une voiture à deux chevaux qui promenait un beau petit garçon de son âge en veste de velours. D'ailleurs, il quittait rarement la montagne et ne descendait guère à la plaine que pour faire son service. Alors, le fusil sur l'épaule, le képi sur l'oreille, le sac au dos, il partait pour Lausanne, consolé de l'ennui de la caserne et de l'exercice par la perspective de se mêler à l'existence des villes. Ayant la bourse bien garnie, il faisait bombance, vidait maintes bouteilles d'Ivorne et de Villeneuve, s'enhardissait jusqu'à faire la cour aux bonnes d'enfants en tablier blanc qui venaient le regarder faire « une, deux ». Et deux jours après le licenciement, remontait à fin haut, triste comme un chien qu'on va battre. C'était fini. Il fallait recommencer le train-train de sa vie presque oisive sous l'œil vitreux de tante Jacqueline, qui sautillait par sa cuisine avec cette démarche choréique que prennent avec l'âge toutes les femmes de la montagne abîmées par les charges trop lourdes qu'elles ont portées sur la tête, qui grondaient toujours et cuisaient en rechignant, pour tous les repas, des choux et des quartiers coriaces de chèvres fumées. Les hivers, surtout, ne finissaient pas. Il semblait que jamais on ne sortirait de la neige amoncelée sur les toits des chalets ou ronfler le bois dans les poêles. On aurait voulu s'engourdir comme les marmottes dans l'ennui de ces brèves journées interminables où, dès 4 heures, on avait d'autres clartés que celles d'une lampe fumeuse. De temps en temps, pour secouer la torpeur générale, Pélomel ou Prunier organisait une chasse aux chamois. On partait, on enfonçait les crampons et les clous de ses gros souliers dans la neige à demi durcie de ses petits sentiers suspendus au flanc des monts, que Prunier retrouvait d'instinct. Les abîmes fuyaient, on marchait sous des sapins tout blancs, on gravissait des pierriers qui bouchent l'horizon. Puis soudain, le sommet aigu du Luisin où les cinq cimes architecturales de la Dent du Midi se découpaient, étincelant comme d'énormes morceaux de mica sur un fond de ciel bleu, éclairé par un radieux et froid soleil d'hiver, tandis qu'au loin, des océans de brouillard submergeaient la plaine. On avait vu les traces de la bête, on la guettait. Bientôt elle montrait sa tête fine et prudente, un coup de feu partait, et le joli chamois bondissait pour mourir. Mais Bouscaté n'aimait pas la chasse. Il ne chassait que pour faire comme tout le monde. Et tant que durait l'expédition, il songeait aux gens des villes, bien tranquilles, au coin de leur cheminée, les pieds sur les chenets. Il y songeait tout l'hiver, et encore au printemps, quand les pâturages se couvrent de fleurs merveilleuses, quand il fallait s'occuper des foins, des blés, des pommes de terre. Les gens des villes, eux, n'ont pas tant de sueur à verser pour faire valoir leurs capitaux. Son bon moment, c'était l'été, quand, vers la fin de juin, les auberges commencent à se remplir d'étrangers. Ils arrivent, Suisses de Lausanne ou de Genève, quelques Anglais, des Allemands, en petit nombre d'abord, mornes, ennuyés, errant par petits groupes le long des chemins, en costumes à carreaux, en voiles blancs, traînant leurs inutiles bâtons de montagne. Puis, plus nombreux, ils font connaissance, ils s'égayent, ils organisent des parties, et le paisible village devient bruyant comme une ruche en pleine activité. À ce moment-là, Bouscaté n'avait plus grand-chose à faire. Ses vaches étaient à la montagne, bien gardées dans son pâturage de fenestral par un vieux berger très sûr, qu'il allait voir une fois par quinzaine. Il faisait à loisir rentrer ses foins et moissonner ses blés, les mains dans les poches, avec des allures de gentilhomme campagnard, très flatté de montrer qu'il ne travaillait pas pour vivre. Et il fumait des pipes, accoudé à la fenêtre, à observer les étrangers du père Pélomel. Il tournait autour d'eux, heureux quand il lui adressait la parole, leur donnant des indications pour leur promenade et s'offrant au besoin à les accompagner, non pas en guide, mais en ami. Et tout le long du chemin, il leur faisait ses doléances sur la montagne, où la vie est bien dure. En septembre, quand commencent à souffler des vents froids, les étrangers partaient. Bouscaté les accompagnait à la station de Vernayaz, et son ennui recommençait. « Eh bien, Bouscaté, vous ne vous mariez pas ?» lui demanda au printemps un des habitués de l'auberge à Pélomel, M. Levieux, un joyeux compère qui s'était pris d'affection pour ce coin perdu des montagnes valaisannes, et y revenait chaque année, depuis longtemps déjà. Il secoua la tête. « Je n'y ai jamais pensé. Vous n'avez donc pas de bonne amie ?»« Non, il n'y a pas ici de fille qui me plaise. »« Vous êtes donc bien difficile. » Bouscaté secoua la tête. « Elles sont trop vite vieilles, » fit-il. « Eh bien, allez à la ville, vous en trouverez assez. » et qui savent se conserver jeunes. » Monsieur Levieux avait jeté cette phrase en passant, sans y attacher d'importance, mais elle était tombée en bon terrain et s'enracina dans l'esprit de Bouscaté. Après tout, pourquoi n'épouserait-il pas une demoiselle de la ville, une vraie demoiselle, qui aurait les mains fines, les pieds petits, le teint blanc? Il était riche pour deux, elle n'aurait pas besoin de travailler et pourrait vivre heureuse dans son chalet, à ne rien faire. On amènerait des meubles de la plaine, pour qu'elle ne soit pas trop dépaysée. On aurait une bonne, un piano. Puisque les gens de la ville aiment tant la montagne et viennent y passer leurs vacances, Elle finirait bien par s'y plaire. Cette idée d'épouser une demoiselle flotta pendant 2 ans, à l'état abstrait, dans le cerveau de Bouscatet. Elle y mûrissait, lente et tardive comme tous les fruits de montagne, tandis que, tapis derrière ses volets mi-clos, pendant que tante Jacqueline sautillait derrière lui, il observait les jeunes filles, quand, après les repas, elles se promenaient en babillant entre elles devant l'auberge à Pélomel. Il y en avait de blondes, il y en avait de brunes, de rieuses et de mélancoliques. Les unes étaient délicates comme ces fils soldanelles qui croissent au bord des névés, très pâles, avec un charme alangui. D'autres avaient des lèvres rouges comme des cerises et de grands yeux dévorants. Parfois, elles erraient, deux à deux, les mains entrelacées, se faisant des confidences à voix basse, ou elles folâtraient comme un troupeau de jeunes chèvres, avec des bonds et des rires perlés. Ou encore, elles formaient un groupe charmant autour du facteur, qui, l'air ahuri, distribuait ses lettres et ses paquets. Et Bouscatet faisait son choix. C'était tantôt l'une, tantôt l'autre. Quand il avait l'âme joyeuse, il prenait les brunes et les gais. Quand il était triste, il se rabattait sur les blondes et les mélancoliques. Et son imagination paresseuse ébauchait de vagues idylles, où il allait offrir son cœur et sa main à quelqu'une de ses héroïnes, qu'il acceptait. Quelques romans, oubliés à la fin de la saison chez Pélomel et qu'il avait lus, lui fournissaient des péripéties. Et ainsi passaient les belles journées de l'été. Quand la troupe s'était dispersée, Bouscatet se sentait très seul, l'âme triste. Il se reprochait de n'avoir pas pris un parti. En songeant à la jolie petite femme qui trottinerait dans son chalet et se chaufferait contre son poêle par ses premiers froids pénétrants d'octobre, il souffrait davantage des grogneries de la tante Jacqueline, de sa grossièreté, de sa laideur, de son éternel sautillement. « Ce sera pour l'année prochaine, » pensait-il, « et pour de bon cette fois. » Et, comme l'échéance était encore lointaine, il ne se posait pas l'inquiétante question qui contribuait pour une bonne part à ses indécisions. « Comment faudra-t-il m'y prendre ?»« Eh bien, Bouscatet, tu ne te maries pas ?» lui demandait de temps en temps le curé. Il se serait bien gardé de lui répondre, comme à Monsieur le Vieux. « Il y a bien le temps, Monsieur le curé, » faisait-il. « Il y a bien le temps. » Le bon vieillard souriait. « Oui, oui, c'est ainsi qu'on parle à ton âge. Mais la vie n'est pas si longue, mon garçon, et il faut profiter de sa jeunesse. Tiens, il y a la reine au prunier, qui est un beau brin de fille, et qui fera une bonne femme. » « Travailleuse comme sa mère. Qu'en dis-tu ?» Bouscatet hochait la tête d'un air indécis et pensait à la mère Prunier, une femme de 40 ans à peine, toute jaune et toute ridée, et qui commençait déjà à sautiller comme la tante Jacqueline. La fille deviendrait comme la mère, fanée, flétrie avant le temps, comme toutes les montagnardes. Non, non, il n'en voulait pas. Il lui fallait mieux que cela. Et il disait avec son air futé « Ne cherchez pas, monsieur le curé, c'est encore trop tôt, voyez-vous. Allons, allons, tu trouveras bien tout seul. » Concluait le brave homme, et il s'en allait, en se disant que Bouscatet n'était pas malin, et que c'était dommage pour un garçon si riche. Chapitre 2. Le troisième été, depuis qu'il avait son idée, le choix de Bouscatet se fixa brusquement. Mademoiselle Marguerite Delangle pouvait avoir 30 ans. Sans être belle ni jolie, avec un teint qui déjà se fanait un peu, elle avait beaucoup de charme, des allures à la fois libres et correctes de jeune fille indépendante, des yeux magnifiques et de beaux cheveux noirs. Très vive, très remuante, elle fut, à peine arrivée chez Pélomel, un des bouts en train de la société. Il y avait là des familles très bourgeoises et même un peu guindées, fort pointilleuses en temps ordinaire sur les bienséances, sévères dans le choix de leurs relations, hostiles à tout ce qui a la moindre odeur de bohème. Mais à la montagne, on accepte sans grand scrupule les compagnies que le hasard vous envoie. Et personne ne voulut s'étonner de voir une jeune fille venir s'installer seule dans une auberge de village. Monsieur le Vieux, qui revenait chaque année et jouait le rôle de major de table, la déclara charmante. Tout le monde accepta son jugement. Il y avait pourtant, dans ses grands yeux inquiets, je ne sais quoi de troublant. Un passé, peut-être. Personne n'en fit la remarque. La bienveillance est extrême dans ces sociétés de hasard, qui se dispersent comme elles se sont réunies aussitôt la saison finie. Pour que la villégiature profite, il en faut chasser les soupçons, les commérages, les méfiances, les mépris dont on vit d'habitude, et on les chasse par un accord tacite, souvent unanime. Mais la bienveillance n'exclut pas la curiosité. On consent à ne pas médire des gens, non pas à ignorer qui ils sont, d'où ils viennent et ce qu'ils font. C'est ainsi que Mademoiselle Lenoir, une vieille fille sèche et dévote qu'on évitait, put bientôt apprendre à tout le monde, sans qu'on sût d'où elle tenait ses renseignements, que Mademoiselle Delangle était de bonne famille, fille d'un avocat vaudois, orpheline de père et de mère, sans fortune, ayant jusqu'à présent gagné sa vie comme institutrice chez des princes russes. De là ses bijoux, ses jolies toilettes, des cadeaux. Elle comptait passer 2 mois à Fin-Haut pour refaire sa santé, gâtée par la grammaire, l'anglais et le piano. Depuis 10 ans qu'elle avait quitté le pays, elle le revoyait pour la première fois. Personne ou presque ne l'y connaissait plus. Ces détails intéressèrent vivement toute la société. Mademoiselle Delangle remarqua fort bien qu'on s'occupait de son histoire et ne parut pas s'en apercevoir. Elle était de toutes les courses organisées en commun, grimpée d'un pas allègre les rudes sentiers, sans jamais se plaindre ni de la fatigue ni de la chaleur, et le soir se mettait au piano pour faire danser la compagnie. Entre-temps, elle flirtait avec un jeune ingénieur, M. Ludin, qui parut bientôt très épris. À table, assis à côté l'un de l'autre, ils babillaient ou riaient en aparté. Et parfois, au clair de lune, ils faisaient longuement les 100 pas sur la route, parlant peu, comme des gens qui n'ont pas besoin de mots pour s'entendre. Ailleurs qu'à la montagne, on les aurait blâmés, mais ils profitaient de la bienveillance universelle. Seule Mademoiselle Lenoir disait d'un air pincé « Les jeunes filles d'à présent ont des allures singulières. » Monsieur le Vieux protestait avec indulgence « mais non, on appelle ça flirter, ça vient d'Angleterre et c'est à la mode. » La vieille dévote reprenait avec une ironie aigre « Puisque ça vient d'Angleterre. » Et Monsieur le Vieux concluait « D'ailleurs, vous verrez que ça finira par un mariage. » Or, depuis l'arrivée de Mademoiselle Delangle, Bouscaté ne quittait plus sa fenêtre que pour venir rôder autour de l'auberge. Et, comme il avait des ruses cousues de fil blanc pour s'approcher de la jeune fille, comme il rougissait dès qu'elle lui adressait la parole, comme il se montrait devant elle plus timide et plus gauche que jamais, on finit par le deviner. Un jour, Monsieur le Vieux lui demanda à brûle-pourpoint en désignant du regard Marguerite. « Eh bien, Bouscaté, elle vous plaît, cette demoiselle ?» Bouscaté passa par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, balbutia, essaya de rire, pendant que Monsieur le Vieux continuait « Vous savez, mon gaillard, vous n'avez pas mauvais goût, matin. » Puis, avec un clignement d'yeux, goguenardant et solennel, Si vous aviez besoin de quelqu'un pour faire la demande en mariage, je suis là, Bouscaté. Je vous servirai de père. » Depuis ce jour, on taquina Marguerite sur son amoureux, et l'on se poussait du coude dès qu'on le voyait arriver, les mains dans les poches de son veston du dimanche et l'air indifférent. À vrai dire, il était trop futé pour ne pas s'apercevoir qu'on se moquait de lui, et il en souffrait dans son amour-propre. Mais il n'aurait pas, pour si peu, renoncé au plaisir de frôler Marguerite. Et puis, cette fois, sa décision était bien prise, et il entendait la poursuivre avec un entêtement de mule, malgré les rires des étrangers auxquels commençaient à se mêler ceux de ses camarades. Il se contentait de lutter de son mieux, bravant les railleries avec un air de ne pas comprendre qui les atténuait, répondant au sarcasme avec un robuste bon sens qui mettait quelquefois les rieurs de son côté. « À la ville, on est comme ça, » se disait-il, « on aime à plaisanter. » Et il supportait les plaisanteries. Il se laissa même inviter à dîner à l'hôtel par Monsieur le Vieux, qui devenait son principal persécuteur. On le plaça à côté de Marguerite. Il se tint très bien. Plus matois qu'il n'en avait l'air, il observait les autres avant de faire un geste, et rien ne lui échappait. Il parlait peu, d'une voix très basse, et malgré toutes les embûches qu'on lui tendit, il ne laissa pas échapper un mot ridicule, en sorte que les autres durent faire tous les frais de la farce. Naturellement, au dessert, on mit la conversation sur son mariage. « Alors, monsieur Bouscaté, vous ne vous mariez décidément pas. »« Eh bien, non, comme vous voyez. » »« Un gentil garçon comme vous, et qui a des vaches, des champs, un chalet. Il y a bien des demoiselles qui seraient fières de vous épouser, allez. » »« Les demoiselles veulent des messieurs, et moi je ne suis qu'un paysan. » Oui, mais un paysan bien élevé, qui a de l'instruction, qui est considéré dans le village. Car enfin, vous serez syndic quand vous voudrez. Moi, je crois que votre femme ne serait pas malheureuse. Qu'en dites-vous, mademoiselle de Langle ? Marguerite ne se prêtait jamais à la plaisanterie habituelle qu'avec une sorte de répugnance. Pourtant, elle finissait toujours par entrer dans le jeu, en cachant de son mieux qu'il l'ennuyait. Elle répondit « Pourquoi serait-elle malheureuse? Monsieur Bouscaté doit être un excellent homme. Je suis sûre qu'il ne la battrait pas. » Bouscaté devint tout rouge et se récria « Oh !» Marguerite continua « Et puis, s'il épouse une demoiselle, j'espère bien qu'il ne lui fera pas porter du foin sur la tête. » « Oh !» répéta Bouscaté. Il se balançait sur sa chaise en cherchant désespérément les mots de protestation qu'il aurait fallu dire et qu'il ne trouvait pas. La table écoutait avec des rires comprimés. Quelques jeunes personnes se mordaient les lèvres ou faisaient du bruit avec leurs fourchettes. Pélomel, debout près du dressoir, tendait l'oreille. « Alors ?» reprit Marguerite. « Que lui manquera-t-il à la femme de Bouscaté ? La société ? Elle n'est pas toujours si spirituelle, et l'on peut très bien s'en passer. Peut-être qu'en hiver, ce serait un peu triste. » « C'est vrai, » balbutia Bouscaté pour dire quelque chose. « Et il y a l'hiver. » « Mais enfin, avec des livres ?»« Oh oui, avec des livres !» Marguerite était d'un sérieux si imperturbable qu'on commençait à se demander si elle plaisantait. Bouscaté, très allumé, ayant vidé plusieurs verres du terrible vin du valet, tordait sa serviette entre ses mains et se sentait le cœur plein d'espérance. Au fond, l'affaire tournait à son avantage. Il n'était pas ridicule. Il avait même montré plus de tact et plus de bon sens que ses railleurs. Et en se levant de table, Mademoiselle de Langle dit à Monsieur le Vieux « Vous savez, je le trouve très bien, votre Bouscaté. Sérieusement, je vous assure. On pourrait l'élever en sachant s'y prendre.
Vous voulez vous moquer de nous, à présent que vous vous êtes assez moqué de lui.
Elle eut un sourire très impertinent.
Croyez-vous que ce serait beaucoup plus difficile?
Après dîner, on fit une ronde. On joua aux jeux innocents. Le soleil se couchait dans ses splendeurs accoutumées, et à chaque invention saugrenue que Monsieur le Vieux imaginait pour le recouvrement des gages, des rires joyeux ébranlaient la solennelle mélancolie du crépuscule. Il se fit un grand silence quand apparut le gros couteau à manche en corne de Bouscaté, qui fut aussitôt condamné à sonner midi sur une horloge de son choix. Un instant, il resta perplexe, essayant de réfléchir et n'y parvenant pas. Puis, avec une décision soudaine, il s'approcha de Marguerite, l'embrassa bravement 12 fois sur les 2 joues, et s'essuya la bouche après, d'un revers de main, tandis que la compagnie s'esclaffait.
« Il sonne fort, Bouscaté !»
fit Monsieur le Vieux. Marguerite souriait, très calme, un peu de rose aux joues. Quand elle eut à son tour un gage à regagner, comme toujours, au prix de quelques baisers, elle choisit Monsieur Ludin, sans aucune affectation apparente. Aussitôt, Bouscaté s'assombrit, sans pouvoir dissimuler. Tandis que Monsieur le Vieux lui disait à l'oreille
« Que voulez-vous, mon pauvre Bouscaté? Chacun son tour. On ne peut pas être à la fois le sonneur et la cloche. »
Il se rasséréna pourtant, quand en le quittant, Marguerite lui donna une franche poignée de main et lui dit d'une voix amicale, avec un beau regard de ses grands yeux, « Bonsoir, Bouscaté. »«
Bonsoir, mademoiselle, » répondit-il en serrant sa grosse main trop vigoureuse sur la petite main délicate de la jeune fille.
Et il rentra dans son chalet, la tête remplie de vagues idées qu'il ne se formulait pas. Les ronflements de tante Jacqueline dans la pièce à côté l'empêchèrent longtemps de s'endormir. De son côté, Marguerite réfléchissait dans sa chambre, tandis que les bruits de l'hôtel s'apaisaient peu à peu. Elle avait fermé ses volets, allumé sa bougie, et la tête dans ses mains, elle cherchait à lire en elle-même ou dans sa destinée. Sans doute, il y avait Monsieur Ludin, un homme de même espèce qu'elle, qui la suivait comme son ombre, semblait l'aimer, écoutait ses pensées, et déjà commençait à la caresser de paroles tendres. Mais avec lui, ce serait comme les autres, un flirtage d'une semaine ou d'un mois, rien de plus. Un beau jour, après avoir épuisé son répertoire de banales galanteries, là des petits plaisirs de papillon que seul il désirait et qu'elle lui laisserait prendre, comme elle les avait souffert tant de fois, il s'en irait, lui écrirait une fois, 2 fois peut-être, et ne saurait plus qu'elle avait passé dans sa vie. Et dans son souvenir se levèrent des figures connues, qu'elle revit briller et disparaître. C'étaient de beaux jeunes gens, presque tous nobles, élégants et riches, rencontrés de ci, de là, au cours de son existence errante, dans les salons où elle accompagnait ses élèves, dans les villes d'eau où elle suivait leur famille. Ils avaient été un instant attirés par sa grâce ou par son esprit, ou simplement par l'espoir de trouver en elle une rapide aventure. Quelquefois, elle avait aimé, plus souvent dans ses flirtages que son inexpérience eût laissé prendre au sérieux, elle avait entrevu la fin de sa vie précaire, la richesse et la liberté après sa dépendance, ce bonheur d'un foyer qui serait sien, que désirent toutes les jeunes filles, qu'elles désirent bien plus quand elles sont aux prises avec le terrible problème du pain quotidien, et plus encore, quand avec les années se réduisent leurs chances de le gagner. Puis, ses espoirs successifs avaient sombré, pour revenir sous des formes nouvelles et s'enfuir encore. Ils s'étaient éloignés, tous, ceux qu'elle avait aimés, ce qu'elle aurait aimé, ce qu'elle aurait accepté, ce qu'elle aurait subi, chacun emportant quelque chose d'elle et la laissant saignante d'une blessure d'amour-propre ou de cœur. À présent, enfin, elle les connaissait et n'attendait plus rien d'eux. Elle savait qu'ils deviendraient rares de plus en plus à mesure que les années achèveraient de la flétrir. Et devant ses pas, elle voyait s'étendre la longue avenue de sa vie déserte, sans joie, sans famille, avec au bout une de ces mornes vieillesses qui sont comme une mort anticipée. Oui, sans doute, ce paysan était un lourdeau, mais il ne la méprisait pas au moins. Il ne savait ni flirter ni mentir. Il serait heureux, heureux et fier qu'elle lui donnât la main. Ce n'était pas elle qui attendait de lui son bonheur, c'était lui qui l'attendait d'elle. Et c'est quelque chose, cela. Elle sourit en pensant au pauvre chalet dont les murs de bois troués de petites fenêtres enfermeraient son horizon. À coup sûr, il ne ressemblait guère au palais du prince charmant d'autrefois. Mais comme elle était lasse, d'autre part, de cette existence qu'elle frôlait depuis 10 ans sans y entrer, de ces élégances dont elle n'avait jamais eu que les reflets, de ce luxe qui passait sur elle et l'écrasait de son insolence. La paix, la solitude, la montagne, le repos, cela ne valait-il pas un sacrifice d'amour-propre? Comme il l'aimerait, ce brave Bouscaté! Un nom ridicule, des allures frustes, soit, mais une bonté de cœur qui rayonnait dans ses yeux. Elle le conduirait comme un enfant, l'élèverait, le formerait, ferait de lui un homme civilisé, qui vaudrait bien Monsieur Dudin et les autres. Elle avait bien senti, quand il serrait sa main avec une vigueur si douce et si maladroite, qu'il serait à jamais son bien, sa chose, la patte molle qu'elle pourrait manier à sa guise. Pourquoi refuserait-elle ce dévouement qui s'offrait? On rirait? Ah, Monsieur le Vieux et Monsieur Dudin pouvaient rire. Leur rire ne la troublerait pas dans sa paix. Elle rouvrit ses volets. Vis-à-vis d'elle, le chalet de Bouscaté se dessinait, noir dans le clair de lune. Des souffles d'air embaumés de parfums agrestes glissaient doucement dans ses cheveux, comme les mystérieuses caresses d'un esprit de paix et de bonté. Les montagnes dormaient dans le ciel. On n'entendait pas un bruit. Rien que ce murmure imperceptible des choses endormies que l'oreille perçoit dans les silences profonds. Elle eut un frisson, puis un sanglot, et refermant sa fenêtre, elle se déshabilla lentement. Chapitre 3. Pour rendre la politesse qu'il avait reçue, Bouscaté invita une après-midi toute la société de l'auberge à Pélomel à venir prendre le café chez lui. Tante Jacqueline ne se prêta pas volontiers à ce caprice. Elle l'accepta pourtant, et, plus grognon que jamais, prépara le café avec beaucoup de chicorée. Il y eut aussi de la crème, que Bouscaté alla chercher, le matin, à son pâturage de fenestral, et du gâteau, des myrtilles étendues sur une épaisse pâte spongieuse, dont la tante servit d'énormes tranches sur des assiettes à ramages bleus. Des bouquets de fleurs alpestres, dans des vases de verre rose, décoraient la grande chambre et lui donnaient un aspect presque confortable. « C'est très joli chez vous, Bouscaté !» dit Monsieur le Vieux en entrant et en commençant d'emblée à railler. « Une pendule? Un fauteuil Voltaire? Mazette! Rien que ça de luxe! Savez-vous que je n'en ai point, moi, de fauteuil Voltaire ?» Bouscaté, méfiant et bonhomme, répondit doucement « Ça ne coûte pourtant pas très cher. »« Pas bien cher? On voit que vous êtes un richard, Bouscaté. Allons, mademoiselle de Langle, asseyez-vous dans le fauteuil Voltaire. Il est là pour vous. Eh bien, que dites-vous de cette chambre? Il faudrait peu de choses pour en faire un vrai salon, hein ?»
Mais sans doute, répondit Marguerite, avec des rideaux aux fenêtres.
Un tapis turc, continua Monsieur le Vieux.
Et chacun plaça son mot.
Le piano ici.
Un sofa là.
Les parois vernies en noyer.
Avec quelques faïences pour les décorer.
Et deux ou trois tableaux.
Tante Jacqueline, qui écoutait avec une angoisse mal dissimulée, éclata.
Ne lui fourrez pas de ces idées-là par la tête. Il s'en fait déjà bien assez tout seul. Est-ce qu'on n'a jamais vu des pianos et des tableaux dans un chalet ?
Bouscatée haussa les épaules. Ne l'écoutez pas. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle n'est jamais seulement descendue à la ville.
Moi, je n'en ai pas peur des tableaux, et je serais très content d'en avoir.
À la bonne heure, fit Monsieur le Vieux. On voit que vous avez le goût des arts. Pourquoi ne demandez-vous pas à Mademoiselle de Langle de vous en faire ?
La figure de Bouscatée prit l'expression du plus grand étonnement.
« Est-ce qu'elle sait ? » demanda-t-il.
« Bien sûr, répondit Monsieur le Vieux. Vous ne le croyez pas ?
Il vous faut faire son portrait, mademoiselle, pour le convaincre. »
« Avec plaisir, fit Marguerite d'un ton très naturel. « Si Bouscatée veut poser. »
Bouscatée continuait à se méfier. Mais le lendemain, il ne put plus douter. Monsieur le Vieux vint le chercher, l'assit sur une chaise sous un arbre, vis-à-vis de Marguerite qui préparait sa palette et qui se mit posément à l'ouvrage. Le portrait de Bouscatée fut un événement. Il mit le village en révolution. Il défraya les conversations de la table d'hôte. Pélomel et Prunier en riaient dans les coins. Le curé s'arrêtait pour juger des progrès. En rentrant de course, après une journée d'ascension, les touristes demandaient à ceux qui ne les avaient pas accompagnés « Où en est-il le portrait de Bouscatée ?» Quant à Bouscatée, il posait consciencieusement, immobile et comme empalé sur sa chaise, plus tranquille qu'une statue, n'osant ni sourire ni se moucher. Quand même Monsieur le Vieux lui répétait d'un air entendu « Vous pouvez bouger, Bouscatée, vous n'êtes pas chez un photographe. » Parfois, Monsieur Ludin venait se pencher sur la toile. Il avait alors des mots piquants sur le nez, la bouche ou les oreilles, sur la pose et sur le modèle. Bouscatée fronçait les sourcils. Marguerite semblait ne pas entendre et continuait à manier son pinceau à petits coups précipités. Et puis, les railleurs n'étaient pas toujours là. Souvent, Bouscatée restait des heures entières en tête-à-tête avec Mademoiselle de Langle, lui toujours immobile, elle toujours travaillant. C'était par de chauds après-midi ensoleillés. Le ciel d'un bleu foncé les enveloppait de son infini silencieux. On n'entendait d'autres bruits que le sourd craquettement des insectes dans les herbes. Pas un murmure ne sortait du village. Pas un être vivant n'apparaissait sur la route, dont les lacets fuyaient en serpentant. Les êtres semblaient fondus dans les choses. Tous les mêmes, tous égaux et infimes, dans l'immensité des horizons. Après la séance, on échangeait quelques mots. « Je vous remercie, monsieur Bouscatée, » disait Marguerite. « Vous avez été bien patient. » Quand elle était seule avec lui, elle avait une autre voix, plus douce, plus affectueuse. Il répondait « Oh, mademoiselle, c'est pour moi qu'est tout le plaisir. » Et il restait à se dandiner devant elle jusqu'à ce qu'elle lui dît autre chose. Peu à peu, pourtant, il s'enhardit. Il se mit à parler de ses affaires, de ses vaches qui paissaient là-bas, à Fénestral, de ses blés qu'on rentrait par ces beaux jours chauds, de sa tante Jacqueline, qui était bonne femme au fond, quand même elle grognait toujours, de la montagne, qu'il comprenait et aimait à sa manière, sans rien de romanesque, mais non sans une espèce de poésie d'instinct, de la ville qui l'attirait et qu'il redoutait à la fois. Marguerite finit par s'intéresser à cette confession naïve, qui coulait sans apprêt d'une bouche maladroite. Parfois, elle l'aidait en lui posant une question. « Alors, si vous pouviez, vous quitteriez la montagne et vous vous établiriez en ville ?»«
Je ne dis pas ça, non, mademoiselle. La montagne, voyez-vous, c'est comme qu'il irait une habitude. Je ne sais pas comment m'expliquer, mais je voudrais tantôt l'une et tantôt l'autre, parce que, voyez-vous, toujours la même chose, ça fatigue. »
Bientôt il osa, lui aussi, interroger la jeune fille sur elle-même. Elle, d'abord très réservée, offusquée aussi par la gaucherie indiscrète de ses questions, répondait à peine et parlait d'autre chose. Puis, elle devina que son indiscrétion n'était pas maladresse. Sa fruste curiosité cessa de la froisser. Elle devint plus confiante, elle parla d'elle, et en fut heureuse. Elle que sa position condamnait à l'impersonnalité. Il se fit répéter plusieurs fois certaines choses qui l'émerveillaient, dont il doutait un peu, avec ses invincibles méfiances de montagnard et de paysan.
« Alors, vous êtes partie comme ça, toute seule, quand vous aviez 18 ans ?»«
Oui. »«
Et vous avez vu tous les pays que vous dites, bien vrai ?»«
Mais oui. » »«
Et vous avez été sur la mer, dans un vaisseau ?»
Une admiration lui venait pour cette vaillance, pour cette expérience aussi, que rehaussait encore sa propre ingénuité. Ce ne fut plus seulement parce qu'elle était de la ville qu'il jugea Mademoiselle de Langle un être supérieur, mais pour tout ce qu'elle avait fait et vu. Quand elle lui tendait la main en lui disant « Au revoir », il éprouvait une espèce de grossière extase où il se sentait très humble et très heureux. Son regard, mouillé d'attendrissement, lui donnait une bonne expression de chien fidèle, et il murmurait de vagues paroles. Tout changeait dès qu'arrivait Monsieur le Vieux, ou surtout Monsieur Ludin. Alors, comme un animal qui se cache à la vue de l'ennemi, il battait en retraite. Son regard redevenait sournois, il guettait le sens de leurs moindres paroles, prêt à leur prêter une signification offensante, ne répondait pas à leurs questions, n'était plus qu'un paysan matois et futé.
« Vous devez avoir de l'agrément avec Bouscaté, » disait Monsieur Ludin à Marguerite.
Elle répondait « Mais je vous assure qu'il est très bien quand vous n'êtes pas là. »
Quand le portrait fut fini et placé dans un beau cadre d'or, on décida qu'il en fallait célébrer l'achèvement, et Bouscaté invita la compagnie à venir manger de la crème à son pâturage de fenestral. Il y a une harmonie entre la montagne et le montagnard. Bouscaté, grimpant de son pas égal les sentiers ou les ardues pentes vertes, paraissait un autre homme. Il était fort, et sa force lui donnait une sorte de beauté. Il était brun, et la allure de son teint se fondait dans l'éclat de la chaude lumière qui remplissait le ciel clair et bleu. Il était calme, et sa tranquille sérénité, quand, un taureau se retournant pour suivre la troupe d'un long regard, les dames poussaient de petits cris d'effroi, tandis que les messieurs, peu rassurés, pressaient le pas, donnait à sa personne trapue et pesante quelque chose de mâle, de poétique aussi. Les citadins, au teint pâle, trop sveltes, vite hors d'haleine et s'épongeant le front, avec leurs chapeaux à voile, leurs parasols, leurs bâtons à pic, tout leur attirail de touristes, faisaient penser à de ridicules insectes, à des larves incomplètes et rampantes. Il était, lui, comme le génie de la montagne, bien chez lui parmi les hautes herbes, les touffes drues des rhododendrons défleuris, les gentianes jaunes dressées comme des javelots sur leur feuillage rêche, les fleurs étranges dont ses pas indifférents broyaient les grappes roses ou bleues. Il allait, sans hâte, comme porté par son pas allongé et régulier,
n'ayant plus rien de cette lourdeur qui offusquait quand il était au repos. Forcé de s'arrêter à chaque instant pour attendre les autres, ayant alors un bon sourire satisfait, un peu dédaigneux. « Qu'a donc aujourd'hui Bouscaté ?» disait Monsieur le Vieux. « Il est très beau !» Et quand Monsieur Ludin voulut railler et se montrer, quoique essoufflé, spirituel à ses dépens, Bouscaté lui jeta un regard qui le fit taire. C'était du reste la dernière course de Monsieur Ludin. Deux jours après, il emballa ses chemises de flanelle et son complet de laine grise, et, ayant revêtu un veston coupé à la dernière mode, partit après de froids adieux à la compagnie. Monsieur le Vieux avait remarqué que la veille, il avait eu une longue conversation avec Mademoiselle de Langle, qui eut les yeux rouges. « Avez-vous vu ? » dit-il malicieusement à son voisin de table. « Il est parti ! » Elle a pleuré. Les actions de Bouscaté sont à la hausse. On rit, et l'on continua à plaisanter Marguerite sur son futur mariage. Chapitre 4. Personne n'y croyait à ce mariage invraisemblable de la carpe et du lapin, selon l'expression de Monsieur le Vieux. Quand par hasard on en parlait avec un semblant de sérieux, il faisait « Bah, elle est trop jolie fille, trop jeune et trop intelligente pour faire une pareille bêtise. Comment pourrait-elle vivre dans ce trou de village ? Et puis, épouser un gaillard pareil, qui a des mains et des pieds d'une aune, non, non, c'est impossible. Elle s'amuse un peu, voilà tout. » Cela résumait l'opinion générale. Pourtant, comment ne pas remarquer que, quoiqu'il n'eût plus le prétexte du portrait, Bouscaté venait tous les jours s'installer auprès de Marguerite, qu'il accueillait avec un enjouement demi-plaisant, demi-sérieux, presque amical. À côté de lui, comme quelques jours auparavant à côté de Monsieur Ludin, elle faisait le soir les 100 pas sur la route, et dans les ombres du couchant, on voyait sa nette et gracieuse silhouette passer et repasser longtemps à côté de l'épais et trapu montagnard. « On voit qu'ils sont faits l'un pour l'autre !» raillait Monsieur le Vieux. Et le village entier les observait avec une stupéfaction indignée. Les jeunes filles, au lavoir, pouffaient de rire et se poussaient du coude quand elles voyaient Bouscaté, en dimanche et tous les jours, aborder Marguerite avec son dandinement habituel et son air cauteleux. Quant aux hommes, ils le suivaient de regards silencieux, puis haussaient les épaules ou plissaient le front. Quelquefois, le guide Prunier murmurait « C'est imbécile de Bouscaté !» L'été tirait à sa fin. Des neiges hâtives tombées sur les montagnes prochaines rafraîchissaient l'air. Le père Pélomel voyait tristement ses hôtes partir l'un après l'autre, leurs bagages charriés par l'âne de la poste qui n'en pouvait plus. Marguerite prolongeait son séjour. « Adieu, Madame Bouscaté !» lui dit en la quittant Monsieur le Vieux, qui partit le dernier. « À l'année prochaine !» Elle sourit et répondit « À l'année prochaine !» Et Monsieur le Vieux commença à croire qu'elle ne plaisantait pas. Elle s'était décidée en elle, ou résignée. Qui dira ce qui se passait en elle ? Le départ de Ludin, qui ne lui plaisait guère, qu'elle eût préféré pourtant, lui rappelait ses amères déconvenues. En voyant cet homme s'éloigner d'elle, comme tant d'autres qui l'avaient bercée de paroles douces et vaines, elle songeait à son triste avenir, ennui, solitude, servage et pauvreté. D'autre part, elle s'était familiarisée avec cet être primitif et bon, au regard de chien fidèle, qui ne manquait pas de finesse dans sa demi-sauvagerie et qui, dans son vrai milieu, dans son cadre, finissait par paraître, à sa manière, presque beau. Jamais elle ne s'était sentie aussi libre que pendant ces 2 mois qui venaient de fuir. Et la liberté, n'est-ce pas presque le bonheur? La montagne l'avait conquise. Elle l'aimait. Elle se sentit prise de terreur à l'idée de retraverser l'Europe et de recommencer à enseigner la grammaire et le piano à une nouvelle génération de petits princes russes. Elle avait un immense besoin de prendre enfin racine quelque part, fût-ce sur ce peu de terre, parmi ces rochers, dans cet humble chalet de bois où sautillait la tante Jacqueline. Et puis surtout, comme les êtres pris entre 2 dangers, elle ne réfléchissait plus. Elle se laissait porter par le hasard. Elle flottait à la dérive. Le jour où la nouvelle du mariage se répandit, officielle, incontestée, ce fut à Fin-Haut une espèce de révolution. Ces braves gens, d'habitude absorbés par les difficultés de leur lutte pour la vie et peu préoccupés les uns des autres, semblaient tout à coup transformés. Les femmes au lavoir, les hommes à l'auberge, en temps ordinaire, vie de toute la semaine, péroraient, gesticulaient, riaient. Ils se méfiaient depuis longtemps, et pourtant, ils ne pouvaient croire que cette grande fille qu'ils voyaient depuis le printemps, avec cette nuance de mépris qu'ils ont pour les étrangers, flânait le long de leur chemin ou foulait leurs herbes, allait désormais vivre parmi eux, comme eux, de leur vie, dans un de leurs chalets. C'était de la colère et de l'indignation. Les uns, comme Prunier, qui avait une fille à marier, se trouvaient frustrés d'une espérance légitime, presque d'un droit. Les autres, plus désintéressés dans l'affaire, épousaient leur rancune par esprit de corps. La tante Jacqueline était partie, en déclarant que pas un jour de plus elle ne s'occuperait de son neveu. Elle s'était réfugiée chez les Pruniers et passait ses journées à verser de l'huile sur le feu, terrible, portant son exaspération d'un chalet à l'autre. Bouscaté était donc obligé de faire lui-même son lit et sa cuisine, et ce n'était pas commode, car l'épicier lui jouait de temps en temps le tour de lui refuser des choses indispensables, du sucre ou des chandelles. On riait sur son chemin, les gamins lui faisaient des niches. Plus d'une pierre vint frapper ses volets dans le silence du soir. Il ne se troublait pas, d'ailleurs, n'essayait de parler à personne et ne semblait s'apercevoir de rien. Le curé, qu'il aborda un jour, ne put rien tirer de lui. « Alors, mon garçon, tu te maries ?»« Oui, monsieur le curé. » « Et c'est vrai que tu épouses cette demoiselle ?»« Oui, monsieur le curé. » »« As-tu bien réfléchi ?»« Oui, monsieur le curé. » »« Tu ne crois pas qu'une fille de village aurait mieux fait ton affaire ? La fille Prunier, par exemple ?»« Non, monsieur le curé. » »« Mais malheureux, crois-tu que la femme pourra vivre comme tante Jacqueline et toi vous viviez ? As-tu pensé qu'il lui faudra de beaux meubles et de la viande tous les jours ? Qu'est-ce qu'elle fera en hiver ? Qui est-ce qu'elle fréquentera au village ? As-tu pensé à toutes ces choses ? » Le curé s'arrêtait un instant entre chaque phrase, attendant une réponse qui ne venait pas. Bouscaté restait immobile devant lui, la tête basse, l'air humble et têtu. « Tout ça s'arrangera, » fit-il enfin. Et le curé s'éloigna en concluant : « Tu es un écervelé, Bouscaté. Tu n'es pas au bout de tes peines, va. » Autour de Marguerite, la curiosité, d'abord étouffée, devenait peu à peu familière et irrespectueuse. On la détaillait, on la regardait sous le nez, on lui adressait des saluts ironiques. Elle n'eut d'ailleurs pas le temps de s'apercevoir de cette hostilité qu'elle ne prévoyait guère. Elle descendit à la plaine pour ses préparatifs. Ce furent alors quelques semaines remplies de péripéties. Il y eut d'abord la publication des bans. Jamais l'église n'avait été si pleine ni si houleuse. Un grand silence se fit quand le curé commença. il y a promesse de mariage entre... » Des rires accueillirent le nom de Bouscaté et se changèrent en murmures d'étonnement quand fut proclamé l'âge de la fiancée. 34 ans. 4 ans de plus que Bouscaté. Qui s'en serait douté à la voir si svelte et l'air si jeune? Il en avait fallu des pommades et des eaux de toilette. Et en rentrant de l'église, on resta longtemps, par groupe, sur la place. Cet imbécile de Bouscaté, plus bête encore qu'on ne l'aurait cru. Ce furent ensuite les détails de l'installation. Bouscaté procédait sournoisement, en cachant ses menées. De temps en temps, il disparaissait pour 2 ou 3 jours. Personne ne l'avait vu partir, mais on constatait son absence, et l'on disait en goguenardant « Il est chez sa belle, pour sûr !» À chaque instant, on voyait arriver d'énormes caisses qu'il fallait déballer sur la place, parce qu'elles ne pouvaient passer par l'étroite porte du chalet. Et l'on regardait avec des yeux ronds les beaux fauteuils en acajou recouverts de reps, le dressoir, l'armoire à glace, toutes sortes de meubles inconnus à fin haut. Il se forma un rassemblement quand on amena le piano, qu'on eut 1000 peines à introduire, d'autant plus que personne ne voulait aider, et que le voiturier, seul avec Bouscaté pour la besogne, pestait et jurait qu'à eux deux ils n'en viendraient jamais à bout. Un autre jour, ce furent des ouvriers, avec des rouleaux de papier peint et de grands pots de vernis. La tante Jacqueline profita d'un moment d'absence de son neveu pour se glisser dans le chalet et en sortir émerveillée, comme si elle avait entrevu un palais des 1001 nuits. On n'entendait plus que des phrases où se mêlaient le blâme et l'envie, comme celle-ci. « Est-il riche tout de même, cet imbécile de Bouscaté ?»« Bien plus riche qu'on ne croyait !» Seulement, ça finira mal. Si son pauvre père le voyait. Un moment, le bruit courut que ce n'était pas lui qui était riche, mais sa fiancée. Malheureusement, Pélomel, qui descendit à Lausanne pour ses affaires, en rapporta des renseignements très précis sur l'état de fortune, la vie et la famille de Marguerite. La légende s'écroula. Et il n'en demeura qu'un plus grand mépris de la demoiselle. Le mariage se fit mystérieusement, comme l'installation, à Lausanne. Bouscaté n'y invita personne, pas même la tante Jacqueline, qui fut furieuse. « Il veut faire le fier, dit-on, il verra bien. » Et pour le punir, le soir de son retour, on lui donna un charivari. Il était arrivé dans l'après-midi. La mère Prunier, qu'il avait rencontrée, lui avait montré le point. Et le soir, vers 9 heures, tout le village se rassembla devant son chalet, avec des casseroles, un tambour, des cloches de vache, un cri-cri, un cornet à piston, tous les instruments bruyants qu'on put trouver. Il s'était approché en grand silence pour le mieux surprendre. Prunier dirigeait. Il fit un signe et le tapage éclata soudain. Le tambour battit la charge, le cornet glapit ses notes perçantes, les cloches s'agitèrent. Puis les voix se mirent de la partie. On hurla « Bouscaté ! Bouscaté ! Bouscaté et sa donzelle !» Tandis que des pierres frappaient les contrevents vernis à frais. Marguerite, d'abord stupéfaite, comprit et se mit à pleurer. Bouscaté la regarda sans rien dire, de ses bons yeux tendres et désolés. Le tapage augmentant, elle eut peur et se rapprocha de lui. « Ils vont enfoncer la porte, » fit-elle. « Ce sont des sauvages. » Ils se lassèrent pourtant de crier et d'agiter leurs instruments. Leurs rires, leurs pas s'éloignèrent, le silence se rétablit. « Qu'est-ce que tu leur as fait ?» demanda Marguerite à son mari. Bouscaté haussa les épaules. « Rien, » fit-il. « Ils m'en veulent parce que je me suis mariée sans eux, je pense. » Justement, l'hiver commençait. Un rude hiver qui, dès la fin d'octobre, avait jeté un pied de neige sur les chemins. Les petits chalets bruns, avec leurs cheminées qui fumaient sans cesse, étaient isolés et perdus dans cette immensité blanche que dominaient les fantômes blancs des hautes montagnes. Bientôt, les routes étant coupées, les lettres et les journaux n'arrivèrent plus que de temps en temps. Pas un bruit dans le village, jamais. Les gens travaillaient, chez eux, à des coutures, à des raccommodages, silencieux autour du poêle qui ronflait. Le dimanche, ils se rencontraient à l'église, où Bouscaté et sa femme n'osaient pas aller. Ils étaient seuls, absolument seuls, aussi seuls que dans une île déserte. Une bonne qu'ils avaient engagée était repartie au bout de 15 jours. Et comme Marguerite ne voulait pas que son mari la quittât, comme elle ne pouvait descendre à la plaine par la neige dont la couche s'épaississait toujours, il ne pouvait la remplacer. Pour vivre, rien autre que des salaisons, des pommes de terre, quelques conserves. Et l'estomac de la jeune femme ne s'accoutumait pas à ce régime sans variété. Les livres, dévorés dans l'ennui des jours et des soirs, n'étaient plus qu'une fatigue. Le piano était devenu fastidieux aussi. Bouscaté, le pauvre, avait dit tout ce qu'il pouvait dire, et leur conversation n'était plus que quelques phrases échelonnées entre le matin et le soir. En ouvrant les volets, il déclarait « Il fait beau temps aujourd'hui, moins froid qu'hier ». Elle haussait les épaules et demandait ironiquement « Il n'y a plus qu'un mètre et demi de neige ?» À midi, il risquait une plaisanterie sur la viande salée qui revenait toujours pour changer. Elle le foudroyait du regard ou soupirait « Si l'on avait des œufs, au moins !» Quand il la trouvait étendue sur le sofa, les yeux errant dans le vide, il disait en essayant de rire « Si l'on pouvait dormir tout l'hiver comme les marmottes, hein ?» Elle répondait froidement « Oui, mais on ne peut pas. » Pas d'épisode, pas de dispute, rien. Bouscaté était un mari modèle. Marguerite ne se plaignait jamais. Une fois seulement, elle soupira « Si nous pouvions vivre ailleurs qu'ici !» Bouscaté plissa son front et répondit « Je ne suis pas assez riche pour aller demeurer à la ville. » « Même en vendant tout ?»« Oui, même en vendant tout. » Encore, s'il n'y avait pas eu la haine de tout ce village. Mais elle pesait sur le toit du chalet comme la neige, plus froide et plus lourde encore. Quand Bouscaté et sa femme se hasardaient à sortir, les jours où les chemins étaient praticables, les fenêtres s'ouvraient à leur passage. Des rires et des colibés les suivaient. Ils se sentaient poursuivis comme par un nid de guêpes irritées. Ils étaient des parias, des lépreux, qu'on aurait sûrement lapidé sans la peur des gendarmes. Le curé était venu les voir une fois, et il lui avait fait fête. Mais on lui en voulut, et comme il n'était pas très brave, il ne revint pas. « Que veux-tu, mon garçon ? » dit-il à Bouscaté qui lui rendait sa visite. « Tu as blessé l'opinion publique, et il faut bien que je compte avec l'opinion publique, moi. » Et quand Marguerite demanda à son mari « Pourquoi donc est-ce que le curé ne revient pas ?» Il dut répondre « C'est qu'il est comme les autres. » Ce jour-là, elle reprit son idée. « Et tu ne veux pas partir ? Mais je m'en irai, moi. Je ne puis pas vivre ainsi. » « Nous verrons, » fit-il. Un matin, la cloche se mit à sonner et Bouscaté dit « Il y a quelqu'un qui est mort. » En effet, la place fourmillait d'ombres emmitouflées, presque mystérieuses, sous une averse de neige. Tout le village était réuni, et les visages aux traits durs des montagnards avaient cette expression de condoléante indifférence qu'ils prennent en tout pays dans ces occasions-là. « Qui donc est-ce qu'on enterre ?» se demandait Bouscaté. Et tandis qu'il se répétait les noms des notables, les effaçant à mesure qu'il voyait passer l'un d'entre eux, il sentait comme la secousse d'une invisible chaîne, celle qui liait sa vie à ses vies proches et sœurs, qu'il avait si longtemps côtoyé et qui n'était plus rien pour lui. Oui, ces gens qui le repoussaient, il les aimait. Non pas individuellement, tel ou tel d'entre eux, Pélomel ou Prunier, mais tous ensemble, comme s'ils eussent été un corps dont il était un membre. Quand la bière sortit de l'église, Bouscaté n'y tint plus. « Il faut pourtant savoir qui est mort, » dit-il à sa femme. Et il sortit. À peine mêlé à la foule, il s'aperçut qu'on feignait de ne pas le voir. On s'écartait de lui. Un instant, il resta hésitant, très timide, ne sachant à qui s'adresser. Enfin, il aborda Pélomel. C'était son meilleur camarade, le plus riche du village après lui. Son compagnon, quand autrefois il allait à la chasse aux chamois. Bien souvent, il s'était tendu la main dans des passes difficiles. « Dis-moi qui est mort, Pélomel. » Pélomel le toisa d'un regard méprisant, mit les mains dans ses poches et lui tourna le dos. Un murmure d'approbation courut dans le groupe qui l'entourait. Lentement, Bouscaté traversa la place, allant vers Prunier, qui se tenait tout près de l'église. Il lui frappa sur l'épaule. « Et toi, Prunier, veux-tu me répondre ? Qui est-ce qui est mort ?» Prunier fit le geste de se secouer comme si la main de Bouscaté l'avait taché et tourna sur ses talons, comme Pélomel. Évidemment, il s'était donné le mot « tous ». S'adresser à d'autres, c'était s'exposer à de nouveaux affronts. Le curé sortait de l'église, marchant droit devant lui comme s'il ne voyait personne, et suivi de ses enfants de cœur. Quoiqu'il fût dans toute la pompe de son office, Bouscaté osa cependant le tirer par son étole. « Pardon, monsieur le curé, dites-moi qui est mort, je vous prie. » Sans s'arrêter et sans lever les yeux, le curé répondit en baissant la voix « C'est ta tante Jacqueline. » Bouscaté resta comme écrasé. Le cortège s'organisait et se mettait en marche, derrière le curé et les enfants de cœur. Il défila lentement, puis disparut. Bouscaté rentra dans son chalet. « Tu ne sais pas qui est mort ? » dit-il à Marguerite. « C'est ma tante Jacqueline. » Et s'affaissant sur un de ses beaux fauteuils en reps, il se mit à pleurer. Très ému aussi, Marguerite vint lui poser doucement la main sur l'épaule, et au bout d'un moment, comme il se calmait un peu, elle lui dit « Tu vois bien qu'il nous faut partir. » « Oui, partons, partons, » fit-il alors. « Allons-nous-en où tu voudras, bien loin d'ici, en Amérique. » Et voilà pourquoi Bouscaté et sa femme partaient pour le Buenos Aires, suivi de tout le village qui ne les boudait plus et se moquait encore d'eux.